Comprendre l'incompréhensible.
Ce qui différencie le plus sans doute les bandes d'aujourd'hui de celles d'hier, c'est l'absence de motivation très claire, du moins en apparence. Autrefois, les gangs se livraient bataille pour des motifs précis. Défendre un espace de commerce, montrer qui était le plus fort, régler des différends amoureux, se venger d'une crasse ou réparer un affront. Rien de tout cela aujourd'hui. La bande prétend défendre son territoire. Le problème est que le dit territoire est rarement attaqué. Le point de départ d'une rixe entre quartiers est en général un incident au collège, un regard, et le plus souvent une rivalité amoureuse. Mais quel que soit le prétexte trouvé, la rixe va se dérouler entre les adolescents des deux quartiers voisins et rivaux. Car les adultes, eux, peuvent circuler d'un quartier à l'autre sans être inquiétés par les bandes. En fait, la défense du territoire semble un prétexte pour justifier le déferlement de violences adolescentes.
Naissance des quartiers.
Nos urbanistes ont eu la bonne idée de donner des noms aux groupements d'immeubles HLM construits dans les banlieues dans les années 60-70. Les Bosquets de Montfermeil, la Cité des 4000 de la Courneuve, les Tarterets de Corbeil-Essonnes, etc. Au départ, une bonne intention, humaniser un habitat qui ne l'était pas vraiment. Mais ces noms ont été par la suite des marqueurs négatifs, outils de stigmatisation. D'autant que les architectes de l'époque ont conçu ces cités comme des espaces clos, refermés sur eux-mêmes. Cet isolement du reste de la ville a créé un très fort sentiment d'appartenance et un surinvestissement du local, comme disent les sociologues. Pour corriger l'erreur de l'urbanisme des années 60, des politiques sont menées à tour de bras et de bulldozer pour désenclaver les cités, réduire la taille des bars et introduire de la mixité sociale. Des programmes sont mis en œuvre pour démolir ces ghettos et tenter de réinsérer les quartiers périphériques dans la ville. Mais le mal est fait et les légendes urbaines se sont créées qui, malgré les efforts de rénovation, ont la vie dure et se transmettent de génération en génération, continuant d'alimenter la défense du territoire. Cette notion de territoire à défendre peut dépasser le simple quartier et s'étendre à une ville entière, comme cela s'est vu dans les agressions en Seine-Saint-Denis. À Paris, le 19e arrondissement est lui-même divisé en quartiers, qui correspondent souvent à des ensembles d'immeubles HLM, comme la cité Cruyff-Cambrai ou les Orgues de Flandre. Il y a la place des Fêtes, Crimée, Ourcq, Riquet, Stalingrad, etc. Il semblerait que la rencontre avec des individus d'un autre quartier vienne compromettre un confort personnel. Aller à la découverte de l'autre leur demande un effort qui les épuise. Entre habitants du même quartier, ils se comprennent à demi-mot. Ils ont le même environnement depuis leur naissance, ils ont vécu les mêmes choses, ils se connaissent tous. Cette cohésion est accentuée par le fait que les familles bougent très peu. Les jeunes de ces grands ensembles ne vivent pas dans un cadre de vie où l'on passe du connu à l'inconnu par étapes successives, comme cela se fait ailleurs. En centre-ville, on glisse progressivement d'une zone centrale très connue à des zones de moins en moins familières, par cercles concentriques, au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Dans cet urbanisme des années 60-70, on passe brutalement du très connu, sa cité, à l'inconnu total, le monde alentour. La cité se présente alors comme une sorte de prison au mur invisible. Mais si on peut comprendre comment s'enracine au fil des générations ce fort sentiment d'appartenance, le réflexe de défense du territoire qu'il génère chez ses adolescents reste mystérieux.
Mais défendre son quartier contre quoi ?
C'est la grande énigme. Toutes les personnes interrogées ne comprennent pas contre qui ni contre quoi les jeunes veulent défendre leur quartier. Et d'ailleurs, en quoi ce quartier est-il le leur ? La plupart des habitants de ces quartiers sont locataires. Les lieux ne leur appartiennent pas, mais sont la propriété de bailleurs sociaux, publics ou privés. En grande majorité, ils sont aussi issus de l'immigration. Ils n'ont donc pas à cœur de défendre la terre de leurs ancêtres contre les envahisseurs. La défense du territoire serait-elle liée à la drogue ou au désir de protéger l'espace de son business contre les intrus ? Cela peut jouer, mais dans la plupart des cas, la drogue n'est pas en cause. Il semblerait que l'origine des rixes n'est ni dans la défense du territoire, ni dans le trafic de drogue, mais bien plutôt dans une quête névrotique de l'estime de soi. La guerre des quartiers prend bien des allures de guerre d'ego, où le territoire n'est qu'un prétexte avouable. Dans ces bandes, il existe des meneurs, très perturbés psychologiquement, qui utilisent l'alibi de la défense du territoire pour tenter de construire leur estime de soi. Ils saisissent le moindre prétexte pour lancer une agression, et les autres membres de la bande suivent, sous la pression des meneurs. En fait, si le phénomène de gratification personnelle qui se cache derrière la pseudo-défense du territoire nous échappe un peu, nous adultes, c'est que ces adolescents ont leur propre code, leur propre échelle de valeurs pour déterminer quel fait délictueux permet à son auteur de monter dans leur hiérarchie.
L'oisiveté, mère de tous les vices ?
L'enfermement dans le quartier crée naturellement un grand vide, car la plupart des activités ont lieu à l'extérieur de la cité. Les jeunes qui ne sortent pas de chez eux sont donc condamnés à l'oisiveté, l'ennui jouant un rôle majeur dans le phénomène des rixes. La psychologie a montré qu'à l'adolescence, le développement de la personnalité se fait par le biais de l'autre. L'autre, non pas en tant qu'être différent, mais au contraire, en tant que miroir. L'adolescent se construit en se regardant dans l'autre. Or, les adolescents dont nous parlons font la guerre à des jeunes qui leur ressemblent en tout point. Au lieu de se voir dans l'autre jeune, ils y voient un ennemi qu'ils veulent détruire, pensant ainsi construire une valeur qui compense les échecs à répétition de leur histoire personnelle. C'est la raison pour laquelle les agresseurs s'en prennent souvent à des jeunes qui réussissent à faire quelque chose de leur vie. Plus que la défense du quartier, l'échec personnel et la jalousie qui en découle semblent à la base du phénomène des rixes. Les victimes ne sont pas choisies au hasard, et le profil des agresseurs est souvent le même.